Et bonjour à tous, bienvenue dans le Paris Central Show. On se retrouve aujourd'hui avec Z. Salut Z et salut à tous dans le chat.
Salut tonton, salut tout le monde.
Ben on se retrouve aujourd'hui justement pour évoquer une thématique qu'on avait envie un peu d'aborder. Est-ce que le mercato de cette année du PSG, c'est pas le plus intelligent sous QSI? Moi, je me pose la question. Qu'est-ce que t'en penses toi Z pour commencer?
C'est compliqué. En fait, si tu veux, tu peux faire un mercato plus intelligent cette année parce que déjà l'année dernière, tu as compensé un de tes immenses manques en renforçant tes ailes. C'est un travail préparatoire. Et j'ai l'impression qu'en fait, si on fait des bons mercatos, vu les tuiles qu'on a accumulées, on va pouvoir faire que des bons mercatos parce qu'on sera toujours en train de réparer des choses. Mais le mercato n'est pas encore terminé. Pour l'instant, il y a eu très peu de signatures au regard de toutes les pistes qui ont été évoquées. Il y a même des rumeurs qui commencent à devenir persistantes que Paris serait un petit peu à sec financièrement. Donc, est-ce que ce mercato intelligent pourrait arriver à terme? Je ne sais pas. Après, dans l'intentionnalité, oui, en soi, ça me plaît. Même si j'aurais aimé un milieu qui soit capable de défendre en zone, j'aurais aimé plus de variations au milieu par rapport aux pistes qui sont annoncées. Mais tout à coup, c'est la première fois où. Par rapport aux rumeurs, tu es en train de te dire que tu arrives à imaginer comment une équipe pourrait jouer. Et pour ça, je trouve que ouais, c'est prometteur.
Je pense qu'on va un peu s'amuser et n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires justement à donner votre avis aussi hein, si vous voulez citer des mercatos en disant bah, tel mercato de QSI de telle année j'ai trouvé plus intelligent ou bah, comparé à celui de telle année on est quand même sur du caviar. Je vais dire au hasard tiens 2016 on repart sur un petit Ressé Krikoviak Ben Arfa. Je fais la comparaison avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui. T'es quand même sur bien autre chose. Je sais pas ce que t'en penses, mais là on sait que bah il y avait vraiment qu'au milieu d'un profil qui peut porter le ballon et faire la liaison entre le milieu et l'attaque. Est-ce que en recrutant Vitinha, tu réponds pas un peu à cette problématique-là? Tu dis que tu veux passer dans une défense à 3, donc du coup tu es prêt à recruter Skriniar qui a apporté des garanties solides dans une défense à 3. Tu es sur des pistes où tu expliques que tu envoies Dagba en prêt avec option d'achat à Strasbourg. Donc du coup, tu veux recruter un remplaçant à Hakimi. Tu es quand même sur des choses, même si, comme tu as dit, dans les faits, on a signé que Vitinha et on a prolongé Mbappé. Dans les faits, et Ekitike qui est arrivé en prêt avec option d'achat depuis ce week-end aussi, bah, tu es plus sur des profils de joueurs que sur des noms, en fait.
Complètement, mais complètement. Mais en soi, si tu veux, tu peux pas ignorer que l'année dernière c'était aussi le cas, même si l'année dernière tout le mercato en fait s'est lu avec l'arrivée de Ramos et de Messi. Fondamentalement, ce qu'on fait l'année dernière, c'est qu'on pallie justement avec des profils. Mais d'ailleurs, on n'a pas forcément joué en adéquation avec les joueurs qu'on a recrutés. Enfin, on est en train de répondre à des problématiques. Et tu faisais référence justement à la saison où tu as Krikio. Tu pourrais aussi, mince, comment il s'appelait, celui qui se planquait en permanence.
Stambouli?
Voilà, Benjamin Stambouli. Tu peux, d'une manière générale, les quelques fois où tu recrutais une star et sinon tu étais même Danilo. Danilo, c'est pas un joueur sur lequel j'ai envie de tomber, mais c'était. Voilà, c'était du t'enchaîner panic buy sur panic buy sur panic buy et depuis 2 ans, tu as l'impression que ça s'est arrêté. Et ce qui est nouveau avec Campos et ce qu'on voit apparaître avec Campos, c'est que fondamentalement les stars, bah on en a déjà et donc maintenant on va recruter des potentiels. Et mine de rien, tu vois quand la star qui apparaît, là, c'est ça où c'est là 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 pour moi pour le coup c'est vraiment bondant. C'est que la star qui apparaît, c'est Milan Skriniar. Qui n'est pas une star bankable dans le sens si tu la compares avec des Messi, avec des Neymar, avec des Mbappé, et c'est une star qui correspond à un besoin de l'effectif, et c'est peut-être ça la grande nouveauté de ce mercato. C'est peut-être ça la grande nouveauté de ce mercato, c'est que la star ce soit Milan Skriniar. Mais après, tu vois, pour dire meilleur mercato, peut-être qu'on y arrivera, on va voir. Mais le truc, c'est que qu'on a accumulé tellement de retard justement avec les mercato panic buy ou les mercato 8e choix qu'on a enchaîné que le mercato l'année dernière, le mercato là et puis les mercato peut-être à venir, il nous faudra 2 3 ans pour vraiment nous en remettre parce que tu as encore je sais pas combien de joueurs qui ont des contrats qui sont invendables et on n'y est pas encore au truc parfait qui nous permet de nous lancer dans une saison en se disant, tu vois, si on compare avec d'autres clubs européens, là, on peut constater le mercato du Bayern qui commence juste à être sick, sick, mais qui est complètement ouf. Où non seulement ils compensent tous les potentiels manques qu'ils avaient, mais en plus de ça, ils sont en train de se renforcer sur quasi toutes les lignes. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore.
Alors c'est marrant que tu évoques le Bayern parce que justement sur notre deuxième chaîne Foot Central, on a sorti un sujet sur le Bayern pour ceux que ça intéresse. Justement, la question c'était est-ce que le Bayern est une des équipes à suivre dès la saison prochaine? Alors ici on est sur Paris Central, donc je vais pas débloquer plus sur cette problématique, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Foot Central pour aller voir la vidéo. Mais au
Si
niveau
je peux
des...
me permettre, juste sur la vidéo, je l'ai regardée, je la recommande, elle est très très intéressante.
Bah après oui voilà, après l'intervenant je pense que vous ne connaissez pas, c'est pas forcément quelqu'un des réseaux et celui qui me dit qu'il connaît, je serais quand même assez étonné. Mais au niveau des commentaires, alors j'en ai vu un qui m'a fait un peu tilter là parce que je lis tous les commentaires et je suis désolé si je peux pas vous faire tous monter, hein, comme je vous dis, j'essaie de faire en sorte que le live ne soit pas uniquement des lives où on lit des commentaires, mais il y en a un qui m'a retenu où il disait ce sera un mercato intelligent quand on aura recruté Matheus Nunes. Attends que je le retrouve celui-là, où c'est qu'il est? Un amoureux du football portugais, un peu comme toi du coup. Mais on a également bah, Eve qui nous dit qu'il vient d'arriver. Salut à toi, Eve, notre modératrice. Également à Padam G, on espère que tu vas bien. Alors justement, il y a aussi les ventes. Ça, c'est un autre problème.
Mais peut-être qu'on peut réagir sur Matheus Nunes.
Ouais, je te laisse réagir sur Matheus Nunes parce que tu le connais plus que moi.
Mais ouais, mais le truc, c'est que Matheus Nunes, c'est un 8-10. Et le truc, c'est que dans ton effectif, tu as déjà un certain Messi, tu as déjà un certain Neymar, donc bah, qui vont prendre la place. Et du coup, où est-ce que tu fais jouer Matheus Nunes? Après, si tu prends Matheus Nunes pour être remplaçant de Vitinha, bah, à ce moment-là, ce serait une bonne idée. Mais dans ce cas-là, c'est limite Vitinha qui se retrouve remplaçant. Pour moi, ce qu'il va montrer, j'ai envie de le voir. Est-ce qu'on va jouer dans un milieu à 3? Mais si on joue dans un milieu à 3, quid de la défense à 3 derrière? Enfin, si tu veux, tu as tout un tas de problématiques. Et au-delà de ça, par rapport à Matheus Nunes, moi, les défenses à 3, c'est quelque chose que je vais kiffer, mais je vais kiffer ça à partir du moment où tu auras un défenseur en zone. Tu vois, tu me dis, tu as un Calvin Phillips avec un Vitinha ou Marco Verratti et un Matheus Nunes. Là, je fonce à 200%. Prendre Matheus Nunes par rapport à comment l'effectif fonctionne aujourd'hui, l'intentionnalité d'avoir une défense à 3, je ne suis pas sûr de la valeur ajoutée. Après, si tu me dis, on prend Renato Sanchez ou Matheus Nunes, mon choix est vite fait. Néanmoins, est-ce que c'est la logique et est-ce que c'est la priorité à l'heure actuelle? Est-ce qu'on n'aurait pas plus besoin d'un remplaçant avec pile le profil qui soit capable de remplacer Marco Verratti si on réfléchit parfaitement, remplacer Marco Verratti et ou Vitinha avec ce profil-là et ensuite les jeunes qui viennent compenser? Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de recruter derrière? Parce que mine de rien, on va jouer à 3. On parle du départ de Diallo, on parle du départ de Kerrer. Est-ce qu'on aura le nombre pour pouvoir jouer à 3 sur la saison? On a toujours le profil d'Hakimi qui n'a pas de doublure. Si Hakimi se casse, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Et c'est pareil, devant, Galtier, dans son interview, a clairement dit qu'il voulait associer Kylian Mbappé avec quelqu'un d'autre. Alors déjà, ça, rien que ça peut être un vrai débat, quoi. Ok, il va mettre Messi ou Neymar sur le banc. Comment ça va se passer? Attendons de voir. Attendons de voir. Mais voilà, c'est donc équitiqué lui seul. Bah donc, t'as que deux purs profils neufs parce que Icardi t'essaye de le bazarder. T'as que deux et Kalimuendo, c'est quasi acté, il va partir. T'as que deux profils neufs et tu vas jouer en 3, 4, 1, 2 avec que deux profils neufs. Enfin bon, Matheus Nunes, c'est un sublime joueur. Là-dessus, on est d'accord. Mais son utilité et la priorité, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Voilà, je voulais juste réagir sur la piste Matheus Nunes qui a été avancée dans les commentaires.
Salut à Pierrot qui est parmi nous. Je vois également un commentaire de Elec PVP qui est nouveau lui dans le chat. Salut à toi Elec. Il nous dit salut les gars, moi ce qui m'inquiète c'est qu'on n'a pas de doublure à Hakimi et qu'en plus de ça on n'a aucune rumeur à ce sujet. Alors Elec, il y a une rumeur qui est sortie à un moment. Moi ça reste juste un avis. Hein. Je suis pas insider, je vais pas commencer à dire que j'ai des infos quoi que ce soit. Ce que j'en pense, c'est que la piste secrète de Campos pour moi, ce serait Nordi Mukiele parce que
parler.
attends. Polyvalent, il peut jouer dans ce rôle de piston dans une défense à 3, il peut jouer défenseur central dans une défense à 3, il peut jouer défenseur droit dans une défense à 4, il a un an de fin de contrat, il coûte 10 millions, il est formé en France et pourrait remplacer un Diallo ou un Kurzawa qui part parce qu'il serait sur la liste des joueurs formés en France pour la fameuse liste de Ligue des Champions. Moi, c'est un profil de joueur qui m'intéresse beaucoup. Alors, Z et peut-être certains me diront, ouais, mais la saison de Mukiele, elle n'est pas top. Je vous invite à vous renseigner sur l'assassin qui était le coach de Leipzig de juillet jusqu'à janvier.
C'est marche.
Bizarrement, Jesse Marsch, quand il est parti, Mukiele a bien mieux joué à Leipzig d'ailleurs. Étrange. Mais c'est un profil, moi, qui m'intéresse beaucoup en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais pour remplacer Hakimi, ça va être compliqué de trouver un joueur au même prix que Mukiele et avec autant de qualité en tout cas, tu vois.
Mais la grosse problématique de Mukiele, c'est qu'on en a parlé. Ça, on a discuté, c'est les rumeurs remontées. Et mine de rien, c'est un silence total depuis 3 semaines. Et du coup, effectivement, moi, tu me dis Mukiele, ben, comme tu l'as rappelé, Mukiele, il peut remplacer Hakimi, il peut dépanner dans une défense à 3 sans aucun souci s'il faut. Il a tous les profils. Alors après, s'il doit jouer aussi haut que ce qu'on a joué lors du premier match avec l'espèce de défense en V où les latéraux de grosso merdo ne passaient pas la ligne médiane et ils revenaient pas en arrière.
Moi, dans le rôle de Dina et Bibé contre Quevilly, là.
Oui, bah voilà. Mais voilà, avoir Mukiele dans ce contexte-là, mais en soi, oui, c'est un no-brainer. Mais il n'y a plus une seule rumeur sur ce sujet-là. Il n'y a plus une seule rumeur sur ce sujet-là. Donc, est-ce que ça reste d'actualité? C'est ça qui m'inquiète, moi.
Est-ce que ça taffe en sous-marin aussi? Parce que tu as bien vu avec Luis Campos et Antero Henrique cette année, les
Ouais.
gens sont vachement moins renseignés sur les recrues comparé auparavant. Je sais pas ce que tu en penses. Parce que bah, tu as vu, cette
Mais sûr.
année, ça a été un peu le jeu de dire, ouais, il y a Pogba qui va arriver, il y a Dembélé qui va arriver, il y a Zidane qui va arriver. Et les seuls mecs qui arrivent au PSG, c'est des pistes qu'on n'avait pas vu venir. Donc, moi, tu vois, c'est pour ça que je te remets cette piste. Parce que, ouais, c'est pas une piste que tu entends parler tous les jours dans les journaux. T'entends pas Nordi Mukiele va arriver au PSG, Nordi Mukiele est en discussion. Mais
Mais
qui
alors,
dit que Campos, il le taffe pas en sous-marin?
par rapport à ça, les pistes qui arrivent, qui nous surprennent, sont portugaises à l'heure actuelle.
C'est vrai.
Elles sont pas.
Beaucoup de pistes portugaises, oui, tu as notamment parlé de Gonçalo Ramos dans une vidéo qui est sortie hier, hein, ouais.
Et on prépare une vidéo sur Ignacio, la dernière remue, la dernière
Gonçalo
rumeur.
Ignacio, ouais.
La dernière rumeur, j'ai fait un espèce de lapsus entre recrue et rumeur. Donc la dernière remue, ça va être le nouveau mot. Et on va préparer la vidéo, on l'a fait ce soir et elle sortira bientôt sur Paris Central.
Alors, juste pour répondre à Angry Bird, le joueur que tu cites, je ne sais pas qui c'est. Moi, je connais un mec qui s'appelle Renato Sanchez avec un S à la fin. Ça t'aidera pour la suite. Non, mais blague à part, blague à part. Quand tu regardes justement, quand on compare aux autres mercatos, tu vois, tu comparais le mercato de l'été dernier. Le mercato de l'été dernier, c'est surtout un mercato de stars. Tu recrutes Hakimi, tu recrutes Messi, tu recrutes Donnarumma, même si c'est des bons joueurs. Et que tu sais que Hakimi, Donnarumma, notamment, c'est des joueurs qui vont t'amener sur le futur, que tu recrutes à moins de 25 ans, qui sont des vrais potentiels, qui vont se développer chez nous. C'est des stars. Donnarumma,
Mais
c'est le gardien d'Italie et de Milan. Il est connu depuis qu'il a 16 ans. Messi, je t'en parle même pas. Sergio Ramos, on recrute des superstars l'été dernier, avant de recruter.
bien sûr, mais le truc, c'est que tu recrutes des stars qui correspondent, toi, par rapport à ce que tu disais, c'est que tu recrutes des stars qui correspondent à des manques. Alors, c'est là où tu sors de ce cadre-là, tout à coup, quand tu débarques avec Messi. Ramos, ça peut être une opportunité, ça fait un nom, il sera, bon, il a particulièrement peu joué, on s'attendait à ce qu'il joue un petit peu plus, mais il était une vraie solution de remplacement derrière, etc., etc. Mais Messi, tout à coup, on sort de ça. Mais Hakimi, en effet, c'est une star, mais c'est pas non plus une star à ce point-là, tu vois, c'est moins une star que, par exemple, que ne l'est Skriniar à l'heure actuelle. Ah.
Ah, là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Z, tu vois, parce
Il a
que
une saison à Dortmund et une saison à l'Inter, quoi. Tu vois, il a pas non plus, il a pas 25 Coupes du Monde derrière lui, 25 euros
non,
derrière
mais tu parles
lui.
d'un
Il
mec qui a quand
évolue,
même une
il
grosse
évolue.
fanbase derrière lui, tu vois, et qui est beaucoup
Oui, bien
évoqué dans
sûr.
les médias,
Mais
tu vois.
il est pas non plus demandé par tous les clubs du monde, alors qu'il est dans un poste qui est extrêmement recherché. Tu vois,
Bah,
et gros,
peut-être Z parce que les autres clubs ont été plus intelligents que nous. Je dirais, excuse-moi, mais Chelsea, ils ont déjà Reece James. Manchester City, ils ont Kyle Walker et Sispet, ils ont Cancelo. Liverpool, ils ont Trent Alexander-Arnold. C'est nous aussi les guignols qui n'avons pas pourvu ces postes plus tôt aussi, tu vois.
Néanmoins, tu places Hakimi très haut dans le Star Game, mais moi je le place à des années-lumière de ce qu'on va qualifier habituellement de star. Et toi, par exemple, quand tu prends Nuno Mendes, c'est absolument
Lui,
pas le
c'est une
cas.
surprise. Lui,
Et
c'est une vraie surprise.
donc, en fait, la lecture est pour moi. Et quand tu prends Donnarumma, bah, oui, tu as Navas, mais Navas, il sort d'une saison où il a eu pas mal de blessures. Tu n'as aucune garantie qu'il va pouvoir être fier toute la saison. Et peut-être qu'il y a un logiciel à changer, parce que dans la manière de jouer, Navas implique le fait d'avoir un bloc, très, très compliqué de construire un bloc qui est proactif avec Navas, qui a tendance à vraiment rester collé sur sa ligne, etc., etc. Donc, pour moi, l'année dernière, tu es déjà en train de prendre un virage qui va dans le bon sens. Il y a juste Messi comme bug. Cette année, c'est un peu l'upgrade de l'année dernière, c'est-à-dire que tu continues ce virage-là, mais en plus, t'as pas le bug Messi, ou en tout cas, pour l'instant, il n'est pas là, parce qu'on n'est pas à l'abri du départ de l'arrivée de Cristiano Ronaldo avant la fin du mercato, ce qui, du coup, le ramènerait à l'année dernière.
Ça, je t'aurais dit que ça aurait bien fonctionné si tu avais eu encore Leonardo au club, mais tu as pas mal de choses qui ont changé. Le virage, il est quand même assez significatif, tu vois. Je veux dire, les recrues, enfin les recrues. Les pistes aujourd'hui, c'est qui? Ça parle de Thuram, ça parle de Renato Sanchez, ça parle de qui encore, de Scamacca, ça parle de Skriniar.
Gonçalo Ignacio là la dernière et Ramos en doublure de Scamacca. Enfin en
Voilà.
si
Alors
Scamacca.
que, je veux dire, excuse-moi, mais en gros, pour les mêmes postes, tu aurais pu avoir, avec une autre direction, au même poste, il faut qu'on achète Pogba, il faut qu'on achète De Jong, il faut qu'on prenne Ousmane Dembélé, il y a Suarez qui est libre, Cristiano Ronaldo, tu vois.
D'accord.
T'aurais pu avoir une direction qui, comment dire, fait encore l'arbre droit en marchant sur la tête et en se
Mais
disant, on a 6 mois de la Coupe du Monde.
non,
C'est une
mais
équipe FIFA là que tu bâtis, tu vois.
j'entends, mais en fait, le truc, tu vois, c'est qu'il y a un espèce d'enthousiasme qui vient que je trouve parfois un peu disproportionné au regard de deux choses. La première chose, c'est que déjà, le mercato, pour l'instant, on a enregistré deux départs et on a enregistré deux arrivées. Basta. Et effectivement, il y a beaucoup de rumeurs, mais il n'y a pas eu tant de mouvements que ça si on regarde. Et ensuite de ça, on parle
Attends,
d'effectivement
ton
d'un
mouvement, Z, tu l'as dit toi-même, on a fait deux ventes.
Oui, mais on n'a fait que deux ventes au regard du fait qu'on doit en faire 11. Donc, si tu veux, pour l'instant, t'es au niveau. Alors, bien sûr, on ne sera jamais à 100% hein, parce que tu as des mecs qui sont invendables. Mais tu es au niveau, tu as fait 20% de tes objectifs en vente, quoi. Tu es très, très, très loin de la ligne d'arrivée.
On a vendu combien de joueurs avant? L'été dernier, par exemple.
Je crois pas loin de zéro, je pense, mais je sais
Ah,
plus.
c'est nos joueurs, ils quittent en fin de contrat.
Bien sûr,
Ils
mais
font
c'est
des
beaucoup de
prêts, on
joueurs.
les évacue jamais et ils finissent en fin de contrat. Là, on en vend. T'imagines, un mec comme Areola qui nous casse la tête qu'on ne savait pas quoi en faire, on l'a vendu. On y est arrivé. Marcin Bulka qui arrivait gratuit chez nous, qui était le 18e gardien de Chelsea, là, qui arrivait gratuit chez nous. Alors certes, c'est que 2 millions, mais on l'a vendu. Il n'est pas parti en fin de contrat. Et ça, c'est quand même des choses que tu ne voyais pas avant. On
C'est vrai.
arrive à vendre des joueurs et on a des joueurs qui sont possiblement sur une liste de transfert si tu as une offre correspondante. Alors moi, ça ne me plaît pas. Mais tu as entendu parler de la rumeur de il est possible que Kimpembe soit vendu.
Oui.
Tu as des possibles ventes si tu as des offres qui correspondent à ce qui est attendu par le club. Et ça, ce n'était pas quelque chose que tu voyais encore l'été dernier, tu vois.
Ce que j'essaye de dire, je suis pas en train de dire que, tu vois, c'est en fait, c'est il y a un enthousiasme qui est né et il trouve ses sources dans des trucs qui sont sérieux, mais il y a aussi un peu de disproportion là-dedans, dans le sens où, un, au niveau des ventes à l'heure actuelle, même si on vend plus qu'avant, on n'est qu'à
Ah, c'est
20%.
pas assez, hein.
On n'a qu'à 20% de ce qu'on doit faire. Il y a les rumeurs là qui sortent aujourd'hui, papier du Parisien, papier de l'équipe, qui annonce les 80 millions d'euros des NCG avec le transfert de Nuno Mendes plus Vitinha. Et avec les quelques ventes, grosso merdo, il nous resterait 15-20 millions pour recruter en l'état. Donc il faut qu'on vende plus. Et le truc, c'est tout le monde n'est pas arrivé. Et il y a l'autre facteur, c'est qu'effectivement, on a renforcé pour l'instant avec beaucoup de jeunesse. C'est très étrange, l'écran qui vient noir de temps en temps. C'est normal, c'est la première fois que ça arrive.
Non, en tout cas, moi j'ai pas de problème de mon côté,
Ah,
mais
tu
je te laisse
me
continuer.
voyais? Ok, d'accord. Moi, je me voyais en
Moi je
norme,
te
quoi.
vois, t'inquiète, je te vois, y a
Et
pas de problème.
si tu veux, on remplace avec des très jeunes pour l'instant. Il y a beaucoup de jeunesse, etc. Une fois que Skriniar arrive, moi, je serai rassuré. Mais en l'état, attention, il faut raison garder. Nous ne sommes pas allés aussi loin que ce qu'on l'imagine. Voilà. Je mets un petit peu au là parce qu'on est tout de suite dans des superlatifs. Ah, Campos est arrivé, c'est formidable. Ah, bah, c'est un espèce de Dortmund Project, mais en fait, c'est vachement plus intelligent parce qu'on est dans un Dortmund Project qui intègre les stars, etc. Et t'as l'impression que ça y est, tout est fini, que le mercato, il est géré, c'est le meilleur mercato de l'histoire de la planète, etc. Souvenez-vous que l'année dernière, on n'était pas loin de dire la même chose, hein, sur le mercato, que le mercato était un des mercatos les plus intelligents, etc. On a vu ce que ça a donné à la saison. Et il faut raison garder parce que, mine de rien, par rapport à tous les bruits qu'on entend, on a très peu avancé. C'est tout ce que je dis.
Alors ouais, justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est au final les pistes qu'on entend. Thuram, Renato, Skriniar, ça fait combien de temps qu'on en parle? Un mois? Ça traîne pour une fois, je veux dire. Avant, notre direction, elle aura entendu le prix, elle aurait essayé une semaine, 2 semaines, c'est pas possible. Bon allez, on met le prix et ils nous embêtent plus. Là, non. Campos, il essaie d'être ferme, tu sais, il essaie de dire, non, moi en fait, je t'ai dit tel prix, j'irai pas au-dessus. Pourquoi tu essayes encore de proposer plus alors que moi je t'ai dit je peux mettre ça maximum?
Bah oui.
Et moi je trouve que c'est bien. Parce que regarde, l'affaire Scamacca par exemple. Campos, il est en mode je te mets 35 sur Scamacca. Et Sassuolo sont en mode Non, moi j'en veux 50. Regarde, il y a même West Ham qui va mettre 47. Ok, bah moi je vais prendre Ekitike en prêt avec option d'achat. Comme ça, il rentre dans mes finances. Hop. Mais je trouve que la réponse, elle est super. Avant, je ne sais pas, je ne vais pas citer tous les autres DS, parce que ce n'était pas forcément que de la faute de la direction sportive à ce moment-là. Ils avaient aussi des consignes de plus haut qu'ils étaient bien obligés de respecter. Mais avant, ça partait en mode de... Je vais dire à un autre joueur, hein, Icardi, ouais, c'est 50 millions. Ouais, mais moi, j'aimerais payer moins. Non, c'est 50 millions. Bon, ok, 50 millions. Tu vois? Alors que là, c'est... non, moi, je mettais le prix. Pourquoi tu essaies de demander plus alors que je ne mettrais pas au-dessus? Et je trouve ça bien, tu vois, que tu aies cette démarche où, bah, ouais, regarde, Roro le dit parfaitement. Fini de passer pour des pigeons et de signer les chèques les yeux fermés. C'est exactement ça. C'est maintenant. Alors, pour répondre à The Giovanni qui me dit, l'Inter, ils essayent de nous avoir avec Skriniar. Non, en fait, si tu regardes, par rapport à ça, Skriniar, dans les faits, il lui reste un an de contrat, c'est vrai. Par contre, c'est un élément essentiel de l'Inter à Milan. Eux, ça les arrange s'il part pas. S'il part pas cet été, il le prolonge. Et s'il prolonge, il est là pour un moment. Et ça va être le patron de cette défense. Eux, dans l'idéal, ils aimeraient plus vendre De Vrij. Mais, quitte à vendre Skriniar, ils sont en position de force pour le vendre. Donc, s'ils le vendent, ce sera à un gros prix. Parce qu'ils ont besoin d'argent, l'Inter. Donc, c'est comme ils ont besoin de 60 millions, ils ne vont pas nous vendre Skriniar à 30 millions parce qu'il a un an de fin de contrat. Ils ont besoin de 60. Donc, ils vont essayer d'avoir 70. Et si on ne les paye pas, eh ben, ils vont se tourner vers un autre club qui sera prêt à le payer. Ou sinon, ben, au pire, ils prolongent Skriniar et ils vendront un autre joueur, tu vois. Donc, ouais, moi j'entends que les gens soient énervés par rapport au prix de Skriniar alors qu'il y a un emprunt de contrat, mais il y a une certaine logique, tu vois.
Et alors, déjà là-dessus, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, citez-moi un central à qui est resté un an de contrat de la qualité de Milan Skriniar qui est parti pour moins de 50 millions d'euros sur les 4 dernières années, vous aurez du mal à en trouver. C'est la première chose, les centraux de qualité, les centraux qui sont top 10 monde.
Tu peux dire Varane qui est parti à 50 millions l'année dernière, mais bon, voilà, c'est Florentino Pérez.
Varane, des années-lumière de Skriniar, à titre perso, c'est mon avis, quoi. Donc, déjà là-dessus. Et après, l'Inter est obligé quand même de trouver une certaine somme. L'Inter est obligé de trouver une certaine somme, ça traîne dans le dossier Skriniar. Ils n'ont pas forcément d'autres joueurs avant, et ils n'ont pas planifié. Alors, après, il y a la problématique, c'est que Bremer, qui était la piste pour remplacer Skriniar, a priori va être acheté par un autre club et qui va compliquer sérieusement la donne. Mais ils ont besoin de vendre et ils n'ont pas forcément anticipé le fait que ça ne se passe pas avec Paris. Donc, à voir comment ça va évoluer, quoi. Mais si Skriniar, on le touche pour 60, pour moi, c'est le jour de fête. Enfin, c'est le prix. Maintenant, le problème, tu vois, et c'est là où il faut tempérer ce que tu disais, c'est est-ce que les 60, est-ce qu'on les a ? Les 60, est-ce qu'on les a ? Et c'est pas sûr. C'est pas du tout sûr. Encore une fois, tu vois, on fait Ekitike. Et là-dessus, on a eu un allié extraordinaire. C'est le club qui a été avec qui ça s'est bien.
Ben, merci à Clément pour le sub qui lui demande Kalimundo 25 millions et Campos sévère. C'est top, les gars. Si Campos arrive à vendre Kalimundo à ce prix-là, c'est quand même pas mal. Alors, ensuite, j'ai vu un autre commentaire sur Kalimundo. Je vais pas le faire monter, mais je vais y répondre. Qui disait Kalimundo, est-ce que ce serait pas mieux que Scamacca? C'est deux profils différents, en fait. Donc, c'est-à-dire que Kalimundo, c'est comme tu l'as vu, si tu as pu voir des matchs de Lens ou le match contre Quevilly, c'est un attaquant qui prend la profondeur et les espaces. Scamacca, ce n'est pas du tout son profil. Et si tu le recrutes, c'est parce que tu attends autre chose de ton neuf, tout simplement. Il y a Gidas aussi qui nous demande tout, ne pourra pas se faire idéalement dès cet été et en un été. La méthode de recrutement a changé, ça se voit. Et au moins, le travail a recommencé. Fin août, on aura de belles surprises avec un peu de frustration. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que tu vois, ça, c'est un commentaire qui est pour le coup super sensé. Parce que j'ai jamais vu une équipe résoudre tous ses problèmes en un seul mercato. Peut-être que tu en as vu, hein, mais moi, de tête là, franchement, j'ai un peu du mal.
Surtout quand tu as accumulé autant de merde en autant d'années. Et quand je dis de merde, je ne parle pas de joueurs, c'est autant de
problèmes
résolvables et autant de contrats. Avoir un groupe sain va prendre 2-3 ans. Mais son commentaire était très juste et c'est ce que j'essayais de dire, mais pas aussi bien que ce que lui l'a dit.
Alors justement, comme disait... la page Paris Central. Si vous êtes nouveau sur l'aventure, n'hésitez pas à mettre un pouce sur le live pour nous aider pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau dans l'aventure. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux à justement débattre de tout ça en live. Je lis tous vos commentaires, vous inquiétez pas. Je les fais pas forcément tous monter, mais j'essaye de temps en temps justement de vous répondre au maximum dès qu'on en a le temps. Alors, là, il y a Eve justement qui a fait un virage. Elle a dit il faut sacrifier Scamacca et prendre Skriniar urgent. Ouais, mais c'est deux postes complètement différents, tu vois. Mais je peux entendre ta logique de dire que pour toi, la priorité, c'est plus d'aller chercher un défenseur pour jouer dans la défense à 3 plutôt que de prendre un attaquant alors qu'on a déjà actuellement, hein, dans l'état des choses, Icardi, Kalimundo, Ekitike, Mbappé, qui peuvent jouer sur ce poste. Ça, je peux entendre ton raisonnement. Mais après, il y a toujours, tu sais, cette logique de, bah, en fait, on vendra les joueurs pour qui il y aura des offres. Et Kalimundo, il intéresse l'Inter. Il intéresse Leeds. Et les deux sont prêts à mettre 25. Donc, est-ce que, justement, c'est pas Kalimundo qui va être amené à partir?
Mais Kalimundo, c'est un non-sens de le garder pour nous et pour lui. En fait, c'est un très bon joueur, Kalimundo. Il a besoin de progresser. Et ça se trouve, il fera peut-être une Nkunku. Je pense pas à ce point-là. Je pense pas à ce point-là. Mais c'est un joueur qui est exactement le même profil qu'un certain Kylian Mbappé, en fait. Et donc, le seul temps de jeu qu'il aurait, ce serait les fois où Kylian Mbappé n'est pas là. Et quand on sait que Kylian Mbappé, comme il veut marquer le plus de buts possible, etc., etc., s'il peut ne pas louper un match, il ne loupera pas un match. Kalimundo, il est juste promis sur le banc et il a envie d'autre chose. Donc, faut lui laisser autre chose. Et comme le rappelle très bien Tonton, ça fait partie, c'est avec Diallo, quoi. C'est Kalimundo et Diallo, c'est les deux seuls qui, pour lesquels on a des offres qui tiennent la route, qui sont sérieuses et un potentiel de les vendre.
Alors, Anthony nous pose une vraie question et je vais t'y répondre. Il nous dit, pourquoi ne pas échanger Kalimundo plus de l'argent contre Skriniar? En fait, c'est une opération comptable toute bête. Bah, au moins, pour ceux qui suivent un peu les lives, on va faire un peu de la compta et au moins vous comprendrez le marché des transferts. En fait, quand tu vends un joueur, la somme pour laquelle tu es vendu, le club vendeur, c'est considéré qu'il récupère cette somme tout de suite. Par exemple, on va dire un truc bête, hein. Skriniar, s'il est vendu pour 70 millions et qu'il y a un contrat de 5 ans, le club acheteur va échelonner l'achat sur 5 ans et tous les ans, tu vas payer sur les 5 ans une partie des 70 millions que tu vas diviser en 5 ans. Tandis que le club vendeur, lui, dans leur caisse à lui, ce n'est pas sur 5 ans. Dans leur caisse à eux, ce sera enregistré tout de suite comme quoi ils ont chopé 75 millions. Donc, il vaut mieux pour eux vendre Skriniar puis acheter Kalimundo en termes comptables plutôt que de faire ce terme comptable. Si je n'ai pas été clair, Anthony, tu me reposes la question et je réexpliquerai, mais... En gros, c'est pour cette raison que tu n'auras pas d'échange. Tu as plus de chances de voir Skriniar vendu puis Kalimundo acheté qu'un échange plus argent parce que ce serait un deal plus compliqué pour l'Inter qui a besoin d'argent immédiatement. Bon, bah apparemment, j'étais assez clair. Est-ce que justement, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Zen?
Au niveau financier?
Ouais.
Bah, au niveau financier, moi, les mathématiques, vu que j'ai toujours pas compris que 2 plus 2, ça faisait 5, je ne vais pas me lancer dedans.
Donc voilà, bon, après pour ceux qui se demandaient d'où se tiennent les explications, je les tiens de Talk My Football, c'était quelqu'un dont je suivais beaucoup les vidéos avant et il avait fait justement une explication des balances des transferts et pourquoi certains clubs arrivent à enregistrer des recrues après avoir fait des fortes ventes. Ça peut notamment expliquer, pour ceux qui se posent la question, pourquoi la Juventus a enregistré Vlahovic à 70 millions cet hiver alors qu'ils avaient, avant d'avoir vendu Bettencourt et Kulusevski à Tottenham, tu vois. C'est ce genre de gymnastique, tu vois. Donc là, dans leur caisse, la Juve, ils disent, mais non, Vlahovic, regardez, on l'a acheté de 70 millions, mais c'est Chosney sur 5 ans. Mais nous, on a vendu Kulusevski et Bettencourt cet hiver à Tottenham. Donc, tu vois, comptablement, tu peux un peu faire du serpent de mer. Et certains clubs, comme la Juve et le Barça, c'est pour ça qu'il y a eu le fameux deal Arthur Pjanic, notamment, pour ceux qui s'en rappellent, c'était exactement pour ces raisons. Les deux clubs avaient besoin d'argent pour injecter du cash sur le marché des transferts. Ils n'avaient pas d'argent. Ils ont surgonflé tous les deux le prix du joueur. Là, Arthur a valu 70 millions. Pjanic a valu 60 millions. Comme ça, bah, genre, t'as qu'un club, il perd que 10 millions. Les deux clubs dépensent sur 5 ans cette somme, mais les deux enregistrent tout de suite la vente. Et comme ça, les mecs ont pu justement acheter parce que les mecs étaient en crise et les mecs ont pu se permettre de se faire beau mercato, alors que normalement, dans les règles du fair play financier que ces deux clubs avaient demandé d'ailleurs à mettre en place pour que le méchant Paris Saint-Germain ne dérègle pas le marché du foot, bah ces mecs-là, ils ont triché. Ils sont plutôt bons. Et il y a beaucoup de clubs qui savent bien jouer comptablement sur ces faits. Mais pour revenir sur la thématique et, du mercato intelligent du PSG, ouais, voilà, Benjamin, comme il nous dit, c'est l'amortissement. C'est exactement ça. Pour ceux qui connaissent un peu la comptabilité, les ventes, c'est de l'amortissement. C'est exactement ça. Mais pour revenir justement sur... Gabou nous pose une question. Est-ce que le match sera disponible sur le Twitch du PSG? Oui. Alors en fait, si tu es sub à la chaîne Twitch du PSG, tu pourras regarder les matchs. Donc si tu ne veux pas payer le Twitch du PSG pour un mois, si tu es abonné à Amazon Prime, tu te subs gratuitement depuis l'ordinateur et au moins tu peux regarder les matchs du PSG gratuitement. Mais il faut avoir Amazon Prime, sinon ton glitch ne marche pas. Pour revenir sur ce mercato intelligent, justement... Qu'est-ce que tu voulais ajouter comme exemple de mercato, de piste qu'on a eu cette année, ou même à l'inverse de mercato précédents qui peuvent appuyer notre thèse pour ce live-là?
Mais le truc, en fait, c'est que c'est le mercato intelligent, pour moi, c'est un triumvirat. Et ça se situe pas sur le terrain, ça se situe dans l'encadrement. Et c'est là où il y a la vraie intelligence du mercato et où il y a aussi les vraies interrogations du mercato. C'est avec on a clairement quelque chose qui s'est passé, qui semble se confirmer avec une certaine lâcher prise de l'émir au niveau des décisions qui comptent et une prise de pouvoir de Campos, de Galtier. Et du grand absent de tous les discours, il est tellement présent que jamais, ça c'est un truc qui est fou, tout le monde connaît la relation, l'importance des adjoints à Lille, t'as pas un seul journaliste dans chacune des conférences, dans chacune des interviews à Galtier, qui va lui demander son entente avec Sacramento. Mais c'est pas très intelligent parce que ça rend Sacramento encore plus central du coup. Et donc il y a ce triumvirat qui s'est très bien fonctionné ensemble, qui l'a montré à Lille en construisant un effectif. Et l'intelligence, elle est là, c'est d'enfin être sorti de cette fièvre acheteuse, et ça se traduit d'ailleurs dans tout ce qui était dit tout à l'heure, et de fonctionner sur quelque chose. Maintenant, les questions que ça pose, c'est que ça fonctionnait très bien à Lille. Est-ce que ça a fonctionné à Paris? Pas la même chose, pas le même effectif, pas les mêmes contraintes. Tout ça reste à résoudre. Mais elle est là, l'intelligence. Pour moi, elle est vraiment là, l'intelligence. Et après, les joueurs, ben, justement, on voit. De toute façon, faut le savoir, c'est même si on vend relativement bien par rapport à tout ce qu'on doit vendre, même si on achète relativement bien par rapport à tout ce qu'on doit acheter, on aura encore des manques. Mais peut-être que ce mercato intelligent, donc les encadrants vont permettre de compenser ça. Mais tu vas pouvoir, en fait, à partir de maintenant, si jamais si les résultats vont complètement contre nous, ce mercato, c'est le trio de tête, bah, les trois, ils disparaissent et puis c'est bon, on revient comme avant et là, ce serait la catastrophe. Mais si les résultats vont dans le bon sens, sans forcément la Ligue des Champions, premier avec 58 points d'avance ou je sais que, outre machin en championnat, eh ben, ça va aller de mieux en mieux. Ça va aller de mieux en mieux parce qu'on va travailler dans une logique de progrès et c'est ça le vrai renouveau.
Alors justement, j'ai vu quelques questions dans le chat. Alors, je vais pas pouvoir faire monter commentaires parce que vous êtes trop haut, mais je m'en suis rappelé. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi mettre 70 millions sur Skriniar qui a 27 ans, alors que le Bayern est allé chercher De Ligt pour 80 millions à 22 ans. Pour répondre à Eve, maillot 2008. Du coup, pour répondre à ta question, celui qui l'avait posée, en fait, c'est pas le même profil. Le Bayern va chercher De Ligt, c'est un défenseur qui est jeune. Est-ce que quand tu as vu le match contre le Real Madrid au match retour, hein, désolé, je vais appuyer là où ça fait mal, est-ce que quand tu vois la déroute contre le Real Madrid en huitième de finale, à la suite de ce match, tu te dis, un, il faut un défenseur qui est confirmé, déjà pris, qui a fait ses preuves, ou un défenseur avec un énorme potentiel, mais qui est encore très jeune, et qui malheureusement fait quelques dingueries sous pression?
Et un truc qu'il faut rappeler, c'est que 27 ans pour un DC, c'est un âge jeune. 28 ans, c'est l'âge, c'est les 28 ans pour un DC, c'est la même
Voilà.
chose. 22,
Tu m'aurais
23.
dit un attaquant ou un milieu, j'aurais compris les réticences, tu vois. Mais De Ligt, il faut le rappeler, ça reste très jeune pour un défenseur, alors que Skriniar rentre dans l'âge parfait pour un défenseur, vraiment. De Ligt,
Il a encore 6 ans,
bah,
Skriniar. Il a encore 6
voilà, mais
ans.
même plus. Attends, Skriniar n'a que 27 ans,
Oui, non,
6
mais
ans.
à son top, il a encore 6 ans à son top devant lui.
Voilà, il arrive justement dans le meilleur âge pour un défenseur où il a acquis de l'expérience, de la maturité. Alors que De Ligt, tu vois, justement, on l'a vu à la Juve, tu sais, il fait encore, il provoque des pénaltys des fois un peu débiles, il fait un peu des mains ou des fautes évitables, parce que, bah, tu sais, il doit, bon, faut dire ce qu'il y a aussi à la Juventus, comme aux Pays-Bas, il doit pas mal compenser beaucoup de bêtises aussi, tu vois. Mais De Ligt, c'est un défenseur du futur. Franchement, c'est un futur top défenseur. Mais là, c'est pas dans le futur qu'il nous faut quelqu'un, il nous faut quelqu'un de maintenant. C'est pour ça que tu regardes qu'on avait essayé de recruter Ramos l'été dernier. Ça s'est pas passé comme prévu à cause des blessures, tu vois. Mais cette année, pour moi, il fallait chercher un Koulibaly ou un Skriniar, tu vois, vraiment quelqu'un qui soit déjà prêt. Et c'est pour ça qu'on va plus chercher ce joueur-là plutôt qu'un De Ligt.
Après, dans la défense de Delerte, parce que c'est quand même un sublime joueur, il faut le dire, tu l'as dit,
Bien sûr.
mais au-delà de ça, la Juve ne jouait pas du tout d'une manière qui est compatible avec la manière qu'a de défendre Delerte. Quand il était à l'Ajax, il était monstrueux. C'est juste que j'ai envie de défendre ce joueur et qu'il s'est pris tellement cher cette saison à la Juve, mais d'une manière qui était tellement imméritée. Il a été utilisé n'importe comment par Allegri. Et je suis le meilleur au Bayern et j'ai aucun doute qu'il perce. Mais comme tu l'as dit, enfin, en charnière, avoir un patron. Et puis surtout, voilà, il y a une chose, c'est en charnière dont on ne parle pas assez souvent, c'est qu'en charnière, c'est très important d'avoir un patron. Quand tu prends la grande charnière du Real, bah, t'avais Pepe, et puis après, t'avais Ramos. Quand tu prends la grande charnière du Barça, bah, t'avais Puyol, puis après, t'as eu Busquets. Non, pas Busquets, Puyol, et puis après, t'as eu Piqué. Et d'une manière générale, très souvent dans les charnières, bah, la Juve, etc., tu vas pouvoir identifier un patron. Et nous, mine de rien, on s'est dit, bah, tiens, Marquinhos va pouvoir être ce patron. On s'est planté. Il peut pas être ce patron. On a besoin de recruter un patron. On a un Ramos, mais Ramos, est-ce qu'il pourra faire plus de 15 matchs sur la saison? On n'a aucune garantie dessus. Skriniar, il coche toutes les cases. C'est un patron. Il est dur sur l'homme. Il est tout à fait capable. Il sait plus que jouer avec Hakimi. Il est capable d'apporter offensivement. Il est hyper physique, mais en même temps très technique. Enfin,
l'anticipation, il est super intelligent aussi.
Il coche tout. Skriniar, il faut le vouloir. C'est un no-brainer.
Il y a Gabou qui nous demande, est-ce qu'on était présent avant-hier sur PSG Quevilly? Bah, franchement, si le club nous invite pour débriefer les matchs, ce sera avec grand plaisir, mais ce n'est malheureusement pas encore le cas, Gabou. On est comme toi, pour l'instant, on regarde les matchs de chez nous. Mais pour la suite, on aimerait bien, ouais. Donc, c'est vrai que d'un côté, tu as bien résumé les choses. Pour moi, je te dirais, Marquinhos, c'est un parfait second. Genre, tu lui mets un patron, tu lui mets genre un Van Dijk à côté de lui, incroyable. Franchement, incroyable. Mais je pense que le brassard est un tout petit peu trop lourd pour Marquinhos, parce que t'as vu quand Ramos a joué contre Quevilly, dans les faits, c'était qui sur le terrain, le patron?
Ramos.
Il n'avait pas le brassard, hein, mais
et tu le voyais vu tout de suite. Les matchs de Ligue 1 qu'il a fait la saison dernière, c'est pareil. Et puis il y a des fois, il a fait même des mauvais matchs, mais dans l'attitude, il y a quelque chose qui se passe. Le bloc, pas de la même manière, etc.
François qui ressort ta théorie de Tintin et Milou, il a bien suivi des lives, François.
Ah, tu moi là, je connais pas. J'y étais pas.
Supreme King qui dit quelque chose d'intéressant, je suis d'accord avec lui. À la Varane, exactement. Varane, c'est pas un chef. Il a besoin d'un chef. Tu le mets à côté d'un chef, il est super fort. Mais si tu lui demandes d'être le chef.
Même en agent, je suis pas fan de moi, mais bon.
Alors attends, il y a Gabou qui demande, tu penses quoi de Stratège et l'autre? Tu parles du youtubeur, le Stratège, c'est ça? Réponds à ma question, parce que peut-être que tu parles d'un joueur ou d'un coach, mais que c'est un surnom et que moi, j'ai pas ta ref. Alors, il y a Alain Philippe qui dit « Je pense que Skriniar n'est pas aussi bon qu'on le dit. Il a beaucoup d'expérience et son expérience se limite à la Serie A. » Là, il y a des choses qui sont pas fautes. Les choses qui sont pas fautes, c'est « Est-ce que tu as déjà vu Skriniar jouer dans un autre championnat que la Serie A ?» Non, là, il a pas tort. Par contre, je t'invite à voir ces matchs en Ligue des Champions, notamment un match retour contre Liverpool où il joue côté gauche pour s'occuper d'un certain Mohamed Salah. Tu me diras ce que t'en penses. Alors, Gabou qui nous demande, oui, alors je t'avoue que je regarde pas les vidéos du stratège, donc je peux pas te donner d'avis dessus et je vais pas m'amuser à faire le gars qui donne son avis sur du contenu qu'il ne regarde pas. Mais il y a des modos chez nous et nos modos, c'est Ultra Fan F et F pour te répondre, Gabou. Regarde, on a vu monstrueux en Ligue des Champions contre le Real, comme disait François. Il y a Maxwell qui est nouveau dans le chat qui demande « Qu'est-ce que vous pensez de la piste Koundé en cas d'échec de Skriniar ?» Je te laisse commencer, Zed.
La problématique, parce que autant au niveau championnat italien, c'est contrairement aux impressions reçues, même si ça marque beaucoup, c'est très tactique. Championnat espagnol, c'est beaucoup plus discutable. Et au niveau des décès, tu as beaucoup de décès qui surperforment en Espagne et qui déçoivent énormément derrière.
T'as Mendy, Mangala, Laporte, pardon.
Qui déçoivent, ce sont les attaquants, mais les décès, pas nécessairement. Et Koundé, pour le coup, tu vois, enfin, tu rajouterais à Marquinhos, qui est déjà un adjoint, un autre adjoint. Koundé, il a le profil adjoint. Il a cette tendance. Alors, il est très, très bon dans une défense à trois, mais il a cette tendance de trop monter. C'est-à-dire, c'est très important que dans une défense à trois, il y en a un qui monte, mais il faut qu'il sache le faire à bon escient. Et il monte trop. Et ce qu'il pouvait se permettre à Séville, dès qu'il sort du cadre de Séville, c'est beaucoup plus délicat. Pour Skriniar, faut pas oublier les matchs qu'il a fait avec la Slovénie. C'était pas des grands matchs, mais lui a fait des bons matchs dans ce cadre-là, donc il a pas joué qu'en Italie. Et comme c'était rappelé, en Ligue des Champions, il a sorti des masterclass. Skriniar, c'est un Golgoth, hein, Skriniar. C'est un Golgoth avec des pompiers. Donc je veux dire que qu'il soit en France, qu'il soit en Italie, qu'il soit ailleurs, le mec, il va déménager physiquement et ça changera pas, quoi.
Alors, juste, je réponds à F qui dit qu'on ne parle pas du contenu des autres. Si les gens ont le droit de me poser des questions, si est-ce qu'on regarde Romain Molina, le stratège, et je te réponds. Romain Molina, j'ai regardé un moment, mais je t'avoue que que le contenu un peu buzz et qui sort toujours pile au bon moment, ça commence un peu à trouver sa louche. Mais par contre, si tu me demandes le vrai travail de Romain Molina, qui est les enquêtes, ça, c'est du super travail et franchement, c'est bien qu'il le fasse. Par contre, après, dommage qu'il fasse un peu de buzz sur le foot, mais ça, c'est un autre problème. Il y
Après,
a
Romain.
Basto, salut à toi, notre bon Igor Bogdanov, qui nous dit Koundé est l'un des meilleurs DC de Liga depuis 3 ans, il va exploser à Chelsea. Donc, tu
Mais
vois, il répond à ta question, pour lui, même pas, il en pense au PSG.
là. Non, c'est juste là, Bastien Haut, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mec un peu ridicule comme ça, avec une moustache, etc. Pas grand-chose, il a des avis footix, mais vraiment de footix, quoi. Et c'est juste le mec, il est fan de Koundé, il se masturbe tous les jours dessus. Genre, il parle de Koundé tous les jours et il voit pas tous les défauts qui sont inhérents à Koundé, quoi. Donc,
Alors, X Alpha, je suis d'accord avec toi, mais si tu as vu la pépite qui est Konaté, tu te dis bien que Klopp il l'a vu, tu crois qu'il va nous le lâcher? J'aime beaucoup Ibrahim Konaté, je l'aimais beaucoup à Leipzig déjà, mais on l'aura pas. Tu vois, c'est comme si tu me dis, ouais, tu penses quoi de Lucas Hernandez, de Leroy Sané? Je les adore ces joueurs, mais on les aura pas à X. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, après, si tu me demandes, bien sûr qu'il nous faut un Ibu Konaté, mais on l'aura pas. Donc tant pis, tu vois. Mais par contre, j'ai vu quelque chose dans les commentaires qui était un peu plus réaliste, où on nous demandait, est-ce que Gonzalo Inacio pourrait être une alternative si on ne fait pas Skriniar? Z.
Ben, je le connais pas encore assez. Le truc, c'est qu'on va faire une vidéo avec Alex, qui
Alex,
le
il
mec qui connaît
maîtrise bien.
le portugais mieux que beaucoup de gens, j'imagine. Et il va bien nous le présenter. Moi, j'ai préparé la vidéo cet après-midi, donc j'en saurai un petit peu plus. Mais je le connais pas encore assez, donc je vais pas pouvoir en parler. Je vais pas pouvoir vous dire. Mais la vidéo, elle arrive sur Paris Central. Hein. Elle arrive sur Paris
Alors
Central.
voilà, par contre, juste pour répondre sans trop spoiler la vidéo, Gonzalo Inacio, il joue au Sporting dans une défense à combien déjà? À 3. Voilà. Donc, on reste justement sur en profil de joueur. Là, on ne parle pas de nom, on parle de profil. On est sur quelque chose de cohérent. Si on ne peut pas faire un défenseur qui est titulaire dans une défense à 3, on va en chercher un autre qui est habitué à jouer dans une défense à 3. Donc, on reste sur quelque chose de cohérent.
Mais de toute façon, on nous a vendu tellement longtemps Skriniar que tout autre que Skriniar serait franchement une énorme déception maintenant.
Alors,
Je veux Skriniar.
Mukiele, on l'a déjà évoqué plus tôt, Alpha, tu connais un peu mon avis. Immigré parisien, alors je vais être honnête avec toi, il y a un proverbe qui dit on n'écoute pas la concurrence, une vache, ça ne boit pas de lait. Donc je t'avoue que moi, je ne regarde pas trop les autres concurrents parce que j'ai pas envie de redire des choses qu'ils ont dit dans leur live et d'être inspiré. Donc je t'avoue que depuis que je fais du contenu, j'essaie de pas regarder les autres pour pas répéter ce qu'ils disent sans faire exprès, en fait, tout simplement. Et pour répondre à Ruben Dias, les gars, juste, vous avez vu combien de transferts entre le PSG et Manchester City depuis que QSI et les Émirats Arabes Unis sont à la tête de Manchester City et du PSG? Zéro. Il n'y a pas de transfert entre ces deux clubs. Et même s'il y en avait, tu penses sincèrement que Manchester City voudrait nous lâcher à nous, Ruben Dias?
C'est même pas la peine, c'est l'homme de base, aux limites.
Voilà, c'est comme je dis, il y a des listes de joueurs, franchement, les mecs, vous pouvez me les proposer, hein. Les Kimmich, Leroy Sané, Lucas Hernandez, Ruben Dias, Ibrahim Konaté, Virgil van Dijk. Les gars, on les fera pas.
Konaté,
On les
d'ailleurs,
fera pas.
Konaté, il y a des grosses similitudes dans le jeu avec Skriniar, d'ailleurs.
Alors, j'ai laissé le. Je vais répondre à Jariel, parce que c'est vrai que ça fait quand même le pauvre, ça fait 10 fois qu'il pose la question et à chaque fois j'oublie de faire monter son commentaire. Pourquoi le PSG ne s'intéresse pas à Patrick Schick? Bah moi j'y bosse pas, donc j'en sais rien, mais tu peux poser la question à Luis Campos et s'il te répond, il te dira lui-même. Non, blague à part.
Est-ce que c'est un profil dont on a besoin, Patrick Schick? Est-ce que ton attaquant, qui est celui qui fait des appels, ne va pas être Kylian Mbappé? Et
Et
alors,
Hugo Ekitike déjà.
quand on prend Ekitike, qui fait quelques appels, mais Ekitike n'a pas que ça dans son arsenal. Et j'ai l'impression que quand on prend Patrick Schick, c'est la même problématique que Kalimuendo, il n'a que ça dans son arsenal. Je ne le vois pas jouer en remise des masses, Patrick Schick. Donc est-ce que c'est le profil qui nous intéresse par rapport aux déclarations de Galtier, par rapport à comment on veut jouer? J'en suis vraiment pas sûr.
Voilà, après, on part du principe de actuellement, il veut jouer avec un, allez, on va dire 3-4-1-2, parce que quand je dis 3-5-2, apparemment, on me dit que je ne suis pas assez clair sur la manière dont ça joue. Donc 3-4-1-2, bah, là, logiquement, il faut que tu recrutes encore un DC, il faut que tu recrutes au milieu, il faut que tu recrutes un piston remplaçant. Patrick Schick, pas un mauvais joueur, mais je pense que si il n'est pas dans notre liste, c'est qu'il y a une bonne raison. Tout simplement. Au niveau des commentaires, je vais regarder si on a quelque chose d'autre aussi par rapport à. Ah, Ruben Neves, la première fois dans le chat que je vois cette piste qui un joueur qui marche plutôt bien du côté des Wolves, et d'habitude, c'est plutôt les clubs de PL qui se disent que ce serait une bonne idée de le faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Z?
Alors, là, attends, je suis obligé de te regarder parce que je me souviens plus bien du joueur. Je vais te laisser commencer, mais.
Ruben Neves, physiquement, il me ressemble un peu, tu sais, genre cheveux longs, un peu casque avec une grosse barbe. Il joue à Wolverhampton, milieu un peu solide, mais qui est bon avec le ballon quand même. Et
Ok.
qui se met à intégrer la Seleção récemment.
Mais oui, et puis ça en parle pas mal. Après, c'est pas un joueur que je regarde assez peu la première, mais donc c'est pas un joueur que je suis. Mais après, je sais que Wolverhampton ça jouait super bien. Mais écoute, si en plus de ça, c'est un mec qui est capable de défendre en zone, ouais, c'est pile le profil qu'il faudrait. C'est pile le profil qui t'offrirait beaucoup de
Ah
richesse
ben,
par rapport au
voilà.
milieu que.
Ten Hag l'a repéré, pas étonnant. Ouais, alors ouais, Roro a raison, on n'est pas tout à fait dans une carrière FIFA, les gars. Il y a des moments, les gars, il y a des pistes, on ne pourra vraiment pas les faire, même si c'est intéressant en soi. Ah, attends, il y a Lasanamus qui nous dit, le petit Turc, alors Arda Gülker, tu veux dire, 17 ans gaucher. Alors, il a été évoqué. Mais comme Mukiele, c'est une piste qui a été évoquée, mais on n'a plus de nouvelles depuis. Pourquoi? Est-ce que parce que le club veut travailler en silence? Est-ce que parce que ben, finalement c'est pas possible? Alors Gabou qui nous dit, qu'est-ce que tu penses de Costil à l'AJ Auxerre? Bah pour l'AJ Auxerre, faire Costil, c'est quand même une super piste. Pour un club qui est promu, avoir un gardien qui a beaucoup d'expérience, qui se trouve être le sosie de Giroud en plus. Non, en vrai, Costil pour Auxerre, c'est une vraie bonne piste. Je sais pas ce que t'en penses toi, Z, mais...
Oui, bah, okay. Oui, bah, en soi, Costil, c'est l'éternel second couteau. Auxerre a un peu d'ambition, oui, moi je trouve que c'est un bon choix en l'occurrence.
Alors,
On a
je vois
beaucoup.
que dans le chat, on est 251 aujourd'hui, on a 63 pouces, vous faites zéro effort aujourd'hui, les gars. Il faut qu'on se remette à l'harcèlement et qu'on refasse des promesses pour avoir des pouces sur ce chat. Alors, Campos, il est aussi sur un mec vénézuélien, oui, Alien Philippe aussi. Alors, Eve, pourquoi on ne va pas regarder du côté de l'Ajax? Parce qu'on n'est pas encore l'Ajax. C'est un travail, ça se fait sur des années et des années. Combien on a de scouts actuellement au PSG, Eve? Un seul.
Mais
Combien
ça.
l'Ajax en a? 42. Pas le même taf. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'après, on va s'y mettre. Ah, la piste de Timber de l'Ajax, c'est pas mal aussi, celle-là. Manu, il nous propose quelque chose d'assez intéressant. T'en penses quoi, toi?
Je connais pas.
Hollandais. Mais c'est vrai que les Hollandais reviennent à la mode avec Ten Hag, De Jong, De Ligt, pour aussi les amoureux de l'Ajax. Alors, Clément Hua nous dit, Laimer en tant que 6, est-ce que ça nous intéresse? Moi, j'aime bien. Mais tu vas voir qu'il va finir au Bayern, celui-là. Lui, j'en mets pas non plus la main à couper, mais Bayern, avec Nagelsmann, vu que Sabitzer n'a pas fonctionné au Bayern cette année, je pense que c'est Leimer qui va être cherché pour.
Mais je pense que tu vois, Sabitzer, c'est un joueur, on se disait clairement, il va être top, top, top. Laimer, c'est le vrai bon joueur, mais je ne sais pas s'il sera top, top, top.
Alors, Leimer, pour moi, c'est un profil à utiliser dans un contexte particulier. C'est le joueur, tu sais, qui va pouvoir te faire jusqu'à 15-16 km par match, qui va gratter un max de ballons et qui, tu sais. Un peu comme ce qu'on a attendu de Wijnaldum mais qu'il n'a pas fait cette année, c'est se projeter verticalement quand il y a des trous parce que tu sais, un attaquant des zones, bah, lui il va foncer dedans, mais c'est ce que Laimer va faire. Mais Laimer, il est déjà griffé par Nagelsmann qui est en train de le travailler depuis, je pense, déjà un an. Donc, je vois qu'on a quand même quelques suiveurs de la Bundesliga. Je vois des pistes que j'aime bien comme Tsapova, Dani Olmo, Konrad Laimer. Mais non, en soi, peut-être que Luis Campos, dans un an ou deux, s'il est encore chez nous, ira plus stocker vers ce côté-là, hein, parce que ces joueurs-là ont des contrats, bah, plus on parle, plus le contrat il diminue et les joueurs n'ont pas prolongé pour le moment, donc ils seront plus accessibles à ces moments-là. Mais ouais, il y a des coups à faire en Bundesliga, il y a des coups à faire
La
aux
Bundesliga.
Pays-Bas, au Portugal, mais on ne pourra pas tout faire cet été.
La vidéo que tu as faite hier sur le Bayern l'explique très bien. Le Bayern a loqué le truc, en fait. Ils ont défoncé le game, et si tu vas chercher en Allemagne, tu étais condamné au second couteau, quoi.
So Kerrer, pardon. Ouais, parce que regarde, dans les faits, Kerrer, pourquoi il prolonge pas chez nous? Pourquoi il n'est pas encore parti? Parce que lui, il négocie avec le Bayern pour signer libre l'été prochain et avoir sa prime à la signature et son bon salaire. Hein. On le connaît. Hein. C'est pour ça qu'on ne tente pas aussi l'échange Kerrer-Mukiele. Hein. C'est parce qu'on sait que Kerrer, il va aller au Bayern. Mais non, après, ouais, le Bayern, c'est une autre gestion. Hein, c'est différent. C'est un club qui, lui, à l'inverse de nous, ils ont fait quoi? Ah, il y a Gabou qui nous demande si on a un Twitch. Alors, ouais, logiquement, on fait des lives sur Twitch aussi. Mais on va essayer de s'y remettre, justement. Il y a eu un petit problème récemment avec la chaîne Twitch, mais on va essayer de la refaire vivre, justement. Lasana, oh non, on va encore nous parler de Noah Lang, tu vas voir. Noah Lang, un joueur très apprécié par Simba Debary, notamment. Sarabia, est-ce qu'il repart en prêt cette saison? On a fait un sujet sur Sarabia et est-ce qu'on pourrait l'intégrer au PSG? Il pourra avoir sa place à jouer, mais plus dans un rôle de numéro 10, vu que les ailiers sont amenés à disparaître dans notre dispositif.
Remplaçant d'un attaquant, hein, il peut aussi. Hein. Il est tout à fait capable de remplacer un attaquant, Sarabia.
Aussi, il peut jouer un rôle de second attaquant, un rôle de 10, un rôle d'ailier. Alors, je vois une question de Clément qui dit, pourquoi le Bayern alors, ils ont déjà pris Gravenberg? Ben parce que ce n'est pas le même profil, encore une fois, Gravenberg et Laimer et Kimmich et Goretzka ne sont pas les mêmes profils, tu veux changer de dispositif, mais si tu veux, Clément, on a une deuxième chaîne qui s'appelle Foot Central et il y a la réponse à ta question dedans sur une vidéo qui traite du Bayern, si tu veux. Alors, François qui dit, Twitch, ça vous rapporterait plus, ouais, mais on est bien aussi sur YouTube, on a un petit chat, on a des abonnés, on peut évoquer des sujets intéressants, et le chat de YouTube est quand même intéressant, depuis le temps qu'on y est, on a nos petits habitués qui sont là aussi. Là, il y a, j'ai encore, Gabou qui me dit, Navas ou Donnarumma, ben, on a tourné une vidéo également sur le sujet, je t'invite à dérouler la chaîne YouTube, et tu verras sur la chaîne YouTube, on a fait pas mal de contenu récemment,
J'ai
je te
juste
laisse dire, Zad.
la réponse Donnarumma sans hésiter.
Ben ouais, ben après tu primes sur la jeunesse, hein, c'est pas du tout contre Navas. Hein. Navas, j'aime beaucoup ce gardien et je trouve d'ailleurs que c'est très cruel qu'on ait fait revivre un Navas qu'il a déjà vécu à Madrid avec Courtois en ce qui me concerne, tu vois. Mais maintenant que c'est là, t'es obligé de faire un choix, t'es obligé de trancher. Malheureusement, c'est pas Navas et son âge avancé, ses blessures récurrentes qui partent avec un avantage, clairement. Jordan qui dit, et pour suppléer Hakimi en piston, eh ben on a répondu plus tôt dans live, désolé si t'étais pas là, il y aura une rediffusion, t'inquiète pas, tu pourras regarder la rediffusion. Di Marzio, François Schmidt qui me dit Di Marzio annonce que la Juve risque de doubler l'Inter. Je ne sais pas
Doublé
quel
dans.
impact ça peut avoir sur Skriniar.
Doublé dans quel sens? Je comprends pas la phrase, moi.
Je pense qu'en fait, sur le cas, tu sais, comment qu'il s'appelle, Bremer.
Ah oui, sur Bremer, oui. Ça c'est un vrai problème. C'est le premier vrai couac dans la. Pour l'instant, la rumeur Skriniar, tout se passait bien. C'est-à-dire que l'Inter poussait, puis nous, on temporisait. Il n'y a pas de clubs qui sont venus. Et là, la piste pour remplacer Skriniar en cas de départ Skriniar, Bremer, donc, est en train de peut-être. Être placé. Et ça, c'est le premier vrai couac en fait qu'il y a dans tout l'historique du transfert Skriniar. C'est le premier vrai gros couac.
Bah ouais, c'est casse-couac, comme tu as dit, hein, tout simplement, parce que on peut se faire doubler. Et là, si on s'est doublé, ce serait un peu con. Théo Hernandez aussi est un bon latéral. Je t'aurais dit ouais, sauf que maintenant, on a Nuno Mendes et je ne vois pas l'intérêt de concurrencer Nuno Mendes avec un Théo Hernandez maintenant.
Et le
Tu
truc,
m'aurais.
Théo Hernandez, c'est un excellent mec, il court très bien, il est très décisif dans ses centres, mais pour moi, c'est du sous-Hakimi. Et à gauche, Nuno Mendes, tu as du sur-Hakimi, c'est-à-dire que tu as un mec qui est capable de faire ci, qui est capable de faire ça, qui est capable de se recentrer, qui a un répertoire de passes qui est infini. Théo Hernandez, il est à des années-lumière de Nuno Mendes. Nuno Mendes, on a recruté un monstre l'année dernière, hein. Faut vraiment le dire, il faut vraiment insister. Regardez-le dans les matchs, regardez la vitesse avec laquelle il a progressé l'année dernière. Les 3 premiers mois, il s'est un peu fait prendre dans son dos. Au bout de 3 mois, c'était terminé. Le mec, il a fait qu'une saison en pro en 5, il se retrouve à jouer à 4, et en 3 mois, il corrige son défaut. Le mec, il progresse aussi vite qu'un autre joueur de l'effectif, il progresse aussi vite que Kylian Mbappé. C'est un monstre, c'est un monstre. Et donc Théo Hernandez, pour moi, qui est ouais, il a des qualités, il est décisif, mais au niveau foot, il a. Enfin, moi, j'ai jamais compris la hype Théo Hernandez ou ça parce qu'il avait mis X buts et X passes décisives. Mais il y a un moment où c'est bien de savoir jouer au foot aussi. Et le comparer à Nuno Mendes, il a même pas. Enfin, Nuno Mendes a 25 Théo Hernandez par cheville, en sachant qu'en plus il a un QI foot.
Non, je serais pas aussi dur que toi. Je serais pas aussi dur que toi. J'aime beaucoup Théo.
C'est vrai que je suis un peu dur, mais la hype Hernandez, elle a été, t'avais l'impression que tout à coup, le mec, il avait inventé le poste, quoi.
Mais Z, pourquoi il y avait cette hype? C'était qui notre nos latéraux gauche à ce moment-là, s'il te plaît?
Et bien sûr,
On avait Bakker, Kurzawa et Bernat sous ligament croisé. Comment tu voulais qu'on s'enflamme pas devant un Théo Hernandez?
il y a les stats, et il y avait les stats. Mais passer les stats, il y a aussi les problèmes. C'est le mec, enfin, derrière, c'est open bar. Et ensuite de ça, dès qu'il faut faire un choix différent que de foncer longue ligne, faire un truc, il est incapable de le faire. Et ces stats, elles sont aussi relatives. Enfin, vas-y, qu'il les fasse sur 3 saisons et puis on en reparlera. Oui, je suis dur sur Théo Hernandez parce que moi, la hype, elle m'a saoulé.
Toi, t'aimes pas les deux frères, de toute façon. J'ai remarqué avec Basto, vous deux, les deux frères là.
L'autre, j'aime beaucoup moins de problèmes. L'autre frère, je ne sais même plus comment il se prénomme, mais justement,
Lucas.
c'est au Bayern, non, qui fait une bonne saison, je crois.
Ah, bah tu. Ah, redis-le ça à Baston, on en discutera dans le groupe parce que Basto, tu lui dis, il va dire ouais, Lucas, depuis le mondial.
Bon,
Basto, on t'embête.
ah, non, 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 mais c'est le Théo, c'est moi, Hakimi, on est à la limite, mais Hakimi, ça va encore. Mais Théo Hernandez, c'est vraiment le mec qui court, c'est tout. Tu vois, par exemple, on parlait de Léao récemment. Léao, il a ce côté-là, mais par contre, quand il doit faire le dernier choix, il regarde ce qui se passe autour de lui avant de décider. Théo Hernandez, j'aime vraiment pas.
T'es quand même pas en train de me dire que tu préfères Léao sur l'aile gauche à Théo parce que Léao, ce que tu as relevé en premier chez lui, c'est l'intelligence. Là, je suis vraiment pas d'accord.
L'intelligence des choix, des choix enfin, si, clairement. Si, clairement. Clairement.
Dans le dernier choix?
Ouais, je suis en train de dire ça.
Bon, dange un peu le Léao, hein, même s'il finit MVP.
Oui, bien sûr qu'il ment. Mais c'est la variation de choix qu'il a. Alors après, Léao, tu vois, tu peux lui reprocher de ne pas forcément choisir de faire la passe avant d'arriver dans le dernier tiers. Mais une fois qu'il est dans le dernier tiers, la variété de choix qu'il a, une fois qu'il a le ballon, etc. Et juste, il en a 5 fois plus que Théo Hernandez. Après, moi, j'aime pas Théo, hein, donc je suis pas très objectif, mais.
Alors, bah, bonne chance à Gabou qui va se faire saigner les gencives. Eve nous demande, tonton pour Bernat, il sera sur la liste à blesser ou pas, car l'an dernier, il était de côté. Bah, je sais pas. Tout dépendra du mercato qu'on fait, des recrues qu'on fait. Est-ce qu'on aura les 8 joueurs qui complètent la liste LDC ou non? Cette année, tu peux glitcher facilement. Cette année, tu peux glitcher facilement. Regarde, je vais te faire la liste. El Shaddai, Kari, Zaïre Emery, Gassama. T'as les 4 formés au club. T'as glitché. Le Tellier, qui a prolongé, t'en as 5. Et après, il faut des mecs formés en France. Il t'en manque plus que 3. Il y a qui est formé en France encore? Mbappé, 6. Manque qui encore? Il t'en manque 2. Donc si tu recrutes, tu rames, ça t'en fait 7. Et là, à ce moment-là, il t'en manque plus qu'un. Donc qui sera-t-il? Si tu recrutes Mukiele et que tu recrutes, tu rames, t'as 8. Et là, tu peux dégager Kurzawa, tu peux mettre Bernat à sa place pour faire le pendant de Nuno Mendes, tu peux dégager Diallo parce que tu n'en auras plus besoin, parce que tu auras tes 8 pour la liste LDC. Tu peux dégager qui d'autre encore qui nous embête, que tu es obligé de mettre parce qu'il est français. T'en trouveras d'autres. T'en trouveras d'autres. Mais ça dépendra du recrutement, Eve. Si tu arrives à recruter suffisamment de joueurs formés en France et formés au PSG. Mais oui, mais oui, mais oui, et Ekitike est là, tac, 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 c'est bon, un de plus. Donc tu as juste à recruter Thuram et Mukiele, et tu peux inscrire facilement Bernat dans la liste.
Juste un des deux pour le coup, avec la liste que tu faisais. Juste un des deux. T'es pas obligé de récupérer les deux.
Voilà, donc tu vois, excusez-moi, mais vous voyez, comme quoi, au final, tu peux la faire assez vite, ta liste, cette année, en t'y prenant assez bien. Donc je vois que mine de rien, on a déjà fait 57 minutes de live. On est parti assez loin, hein. Comme d'habitude, on est des bons skieurs, on aime bien partir en hors-piste. Mais pour revenir plus sur le sujet central, est-ce que ce mercato ne serait-il pas le plus intelligent, pas le meilleur, hein, mais le plus intelligent du PSG sous QSI? Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour répondre à cette problématique en t'abordant justement sur les choix qui ont été faits et les choix des années précédentes?
Ben, je suis en train de. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le mercato, si on considère le mercato du triumvirat qui a été mis en place, c'est la première fois qu'on a. En fait, c'est la première fois qu'on a une directeur sportif qui apparaît cohérente. Et pour ça, on a posé la première pierre pour avoir des mercatos intelligents.
Ouais, je te rejoindrai justement dans le sens où ben, tu as un directeur sportif qui a été choisi par la direction et ce directeur sportif choisit son coach.
Et l'assistant coach du coach qui compense les faiblesses du coach et le coach a les qualités que l'assistant coach n'a pas.
Ça fait combien de temps que ça ne nous était pas arrivé à QSI, ça, depuis la nomination de Leonardo et Ancelotti, ça, non?
Ouais, mais c'était même pas exactement ça.
Et encore, c'était même pas exactement ça. Donc là, en fait, c'est la première fois que tu as en fait un truc qui marche à l'endroit, qui est logique. Et justement, tu vois pas entre guillemets de dinguerie comme les années précédentes. Alors, pour répondre justement dans le chat, on a des réponses. Il y a Franck, The Franck, qui nous dit sans aucun doute le mercato le plus réfléchi depuis longtemps, comme quoi on est capable de faire comme d'autres. Exemple, Liverpool. Ouais, exactement. Tu vois, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la première fois où justement, bah, Anthony Foll qui nous rejoint également, hein, le plus intelligent en tout cas, tu vois, même si c'est pas le meilleur, tu vois. Et Lassana nous dit, on prend pas, un pivot genre Savic ou Pogba, grand technique s'il joue plus haut. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, Z?
Bah, Savic, Marco aurait été très intéressant, mais Savic, il joue moins haut que Pogba. Bah, justement, que tu joues avec Pogba, bah, ok, t'as Marco et ça va être qui ton troisième milieu? Parce que ton milieu à deux, Marco Pogba, j'ai un peu de mal à le voir, même avec une charnière à trois. Mais après, si tu proposes. Mais maintenant, Pogba, moi, jusqu'à il y a 2 ans, je le voulais. C'est un joueur qui a des qualités extraordinaires. Mais ça fait quoi? Ça fait 4, 5 ans maintenant qu'il enchaîne des saisons où de temps en temps il est bon et sinon il est fondamentalement mauvais, où il galère pour s'imposer en club en ayant un salaire hallucinant. Quand un joueur, ça fait trop d'années de suite que c'est de la faute du club et pas de sa faute à lui, il y a un moment où il faut se poser la question, quoi.
Alors, il y a Giovanni qui dit, ben, autant aller chercher Brozovic, alors, ben.
Mais Brozovic, oui, mais Brozovic, c'est ton 8. Et tu fais quoi de Messi et tu fais quoi de Neymar, Giovanni? Déjà, il y a un
Non,
problème
mais c'est surtout,
sur le
tu ne
banc.
penses pas que si on n'est pas sur Brozovic, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas?
Et puis si tu prends Skriniar, ils vont peut-être pas te donner Brozovic aussi, quoi.
Voilà. À un moment, non, mais bien sûr, mais après, en soi, oui, le choix de Brozovic est tout à fait intelligent, mais si on ne peut pas le faire. C'est que malheureusement, il y a des bonnes raisons. Ouais, je suis d'accord avec ce que j'ai vu dans le chat de là de la part d'Onyx. Vous êtes des super tricheurs, les gars. Comment ça, il n'y a pas 150 pouces là? On est 300, 600 live et je vois qu'on est que 99 pouces. Je pense qu'on peut faire un peu mieux quand même, les mecs. Alors, Maxwell qui demande, est-ce qu'on aborderait le débat Neymar ou Messi? Ça pourrait être un sujet de live intéressant pour vendredi ou pour la semaine prochaine, en tout cas.
Les
C'est
choses
un
à dire.
sujet qui peut nous intéresser. Et comme dit Franck, bah ouais, Brozovic, bah, il est verrouillé à double tour par l'Inter. On l'a tenté cet hiver. Je te rappelle que l'Inter l'a prolongé de 4 ans. Donc, ouais. Renato Sanctfeves. Alors, ça doit être un jeune Ukrainien. Il doit être pas mal, celui-là. Il doit jouer au Shakhtar de Donetsk. On observera ce joueur, Alexandre. Non, blague à part, j'aime beaucoup Renato Sanctfeves, mais notre ami Z est un peu moins fan.
Sanchez, c'est la version française, parce que la version ukrainienne, ça se trouve, il est très très bon lui sur ça. Mais la version portugaise française, enfin, il joue en France,
Il y a la version espagnole aussi, t'as oublié le Sanchez avec un Z à la fin.
alors, avec ballon, il est intéressant, mais au niveau stats défensives, si tu cumules toutes les dimensions des stats défensifs, c'est un des pires défenseurs centraux d'Europe.
Toujours pas Renato Sanchez avec un S, sinon là tu penses qu'il est espagnol. Regarde, je te fais
Mais...
la petite leçon linguistique, Alex. Si tu vois un nom de famille avec un Z à la fin, c'est un espagnol, Fernandez Sanchez. Mais si tu vois qu'il a un S à la fin, comme Bruno Fernandes, Renato Sanchez, Anthony Lopez, avec des S, c'est des Portugais, et des Z, c'est des Espagnols. Et au moins, tu le sauras pour la prochaine fois. Mais vas-y, je te laisse poursuivre justement Z sur ce que tu disais sur Renato Sanchez.
Mais Renato Sanchez, pour moi, c'est un excellent impact player, mais l'envisager en titulaire, pour moi, c'est une énorme erreur parce que c'est un joueur qui a des stats défensifs qui sont très faibles, que ce soit les duels aériens remportés, les duels au sol remportés, que ce soit en interception et que ce soit en pressing effectué. Il est, au niveau de tous les métriques, il est très très bas. Et après, avec le ballon, et ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est qu'il peut jouer milieu défensif, il peut jouer box to box, il peut jouer ailier, pas milieu défensif, mais quarterback, c'est-à-dire en fait une espèce de régista, mais qui vaut rien défensivement, mais qui est très bon pour lancer les ballons. Et je pense que c'est un joueur, typiquement, tu le fais rentrer à la 70e minute, il peut t'ouvrir des possibilités. Maintenant, ma crainte avec Galtier, comment c'est quoi
Ouais.
son prénom? Oui, j'ai oublié le prénom, Galtier.
Christophe.
Ah ouais, avec Christophe Galtier, c'est que il est
J'allais
tendance.
dire Fabien comme le rugbyman.
Un problème.
Alors, Raphaël, en tout cas, je regarde ses commentaires dans le chat. Lui propose des pistes sympas. Lui, on voit qu'il regarde la Bundesliga et la Serie A. Parce que je vois les noms qu'il propose depuis tout à l'heure là. Il y a des vrais noms intéressants, mais Robin Gosens, il vient à peine d'arriver à l'Inter et c'est pas une grosse valeur marchande comme un Skriniar. Donc, je ne pense pas qu'il partira de l'Inter. Mais en tout cas, Raphaël, tu proposes des joueurs très intéressants depuis tout à l'heure dans le chat, je te vois.
C'est côté Nuno, c'est côté Nuno. On n'a pas besoin de suppléant côté Nuno.
Il t'a fait une petite blague, je pense, là. Il t'a dit François Galtier, c'est l'assistant de
Oui,
Georges Campos.
c'est connu, c'est le mec qui travaille avec Stéphane Sacramento.
Ouais. Alors, Eladji Ndiaye nous pose une question très intéressante. Eladji Ndiaye, je pense qu'il est sénégalais avec ce nom. Il nous dit l'intégration progressive de Zaïre Emery en 8. Ça pourrait faire du bien à l'équipe. Je pense que justement, Zaïre Emery va faire partie de ce groupe élite. Il a joué, et pas par hasard, contre Quevilly en deuxième mi-temps. Parce que moi, ce que j'en ai vu hein, contre Quevilly, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je pense qu'il a fait une première période avec l'équipe et le profil de système qu'il aimerait voir en titulaire. Et une équipe numéro 2 avec les mecs qu'il aimerait voir dans la rotation. Et ça ressemblait plus à un 4-4-2 en deuxième mi-temps. Je ne sais pas si tu as vu. Et Zaïre Emery, il jouait haut. Il jouait milieu, mais il jouait haut. Et il y avait aussi, bah, t'as vu, il y avait, comment il s'appelait, Bitu Masala, il y avait Teddy Allo, il y avait Baldé, il y avait des jeunes.
Ouais, mais il y avait aussi un Sénégalais, et du coup, moi j'ai eu beaucoup de mal à
Il y avait
regarder.
aussi Idrissa Gueye en régista, et mes yeux ont saigné du sang parce que ce n'est absolument pas une régista. Herrera en défenseur central, c'est à la fois l'idée la plus couillue dans le sens, ouais, c'est un joueur intelligent, il peut faire l'anticipation, mais à la fois, je me suis dit, mais Sacramento. Ok, t'es dans le foot du futur, mais t'es un peu trop dans le futur. Pour moi, je suis pas prêt à voir Herrera défenseur central, je te le dis de suite. Donc, on t'a laissé ça parce que t'avais pas d'autre choix contre que lui. Mais s'il te plaît, ne refais jamais ça, Herrera en défenseur central, là. Ma
Bon.
tête, je te jure, elle a vrillé. Mes yeux ont fait un salto arrière, je sais pas pour toi, mais Herrera en DC, là. Oh.
Moi, très sincèrement, sur la deuxième mi-temps, j'ai vu qu'il y avait Ganagay, j'ai coupé l'écran. Voilà, de base.
Salut, Laurent.
Mais c'est la première mi-temps où il faut en parler, où il y avait du foot du futur.
Attends, attends. Oui, alors François, Icardi titulaire, yes, non. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'à un moment, si tu veux qu'Icardi parte, faut que tu le valorises un peu et faut que tu lui donnes du temps de jeu et que tu fasses croire qu'il va avoir du temps de jeu. Que si tu arrives et tu le mets tout de suite à la cave et tu te dis, ouais, Icardi, il est fini, il est trop nul, comment tu veux le vendre? Tout simplement, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Alors, Sam Coder qui dit Paredes titulaire cette saison, moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il a été mis parce que. Mais les gars, il n'y avait pas Mbappé non plus. Il n'y avait pas Kimpembe, il n'y avait pas Nuno Mendes, il n'y avait pas Hakimi, il y avait des absents. Donc, des absents, tu as compensé avec ce qu'il y avait. On est d'accord, tu vois. Mais je pense que le schéma et la plupart des joueurs que tu as vus contre Quevilly en première mi-temps, c'est ce que tu verras. Mais après, bien entendu, il manquait des joueurs. Donc, tu as vu certains joueurs qui ne seront sûrement pas titulaires, notamment comme Kalimundo, comme Icardi. Tu crois que Dinaï Bimbe, il va être piston droit cette saison? Non. Mais. T'as vu certaines choses, bah, ce qu'il fallait, certains profils en fonction de certaines absences, tout simplement. Mais par contre, je pense que Kalimundo peut clairement gagner sa place parce qu'il peut montrer des choses intéressantes vu qu'il a joué dans un schéma à 3, notamment quand il était à Lens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, justement, Z?
Moi, bah, sur les pistes, c'est délicat, mais sur Icardi, je suis désolé, t'as même pas besoin de le montrer. Tout le monde, enfin, Icardi, il a la placarde sur le truc. La placarde, c'est bonjour, j'ai mangé des assados pendant un an et maintenant j'ai mangé du sang, je suis revenu maigre, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Et quoi qu'il fasse, qui joue ou qui joue pas, tout le monde a vu la placarde. Le truc, c'est marqué. Après, pour les jeunes, ouais, ça va être une intégration progressive sur les choix. Mais moi, c'est vraiment cette première mi-temps où, pour moi, on a vu du football du futur avec cette espèce de défense, un espèce de système en V à point de basse avec la défense centrale qui était Kubizus, j'avais jamais vu ça, j'ai même pas compris comment ça fonctionnait, mais ça fonctionnait, il y a des choses intéressantes. Pour la deuxième mi-temps, ouais, j'ai pas d'avis. J'ai pas
Ouais,
d'avis
bon,
parce que
après, voilà, deuxième mi-temps, comme on l'a dit, c'était un autre schéma, c'était plus des remplaçants. Moi, je t'avoue, j'ai regardé,
il y avait Ganagay, hein.
mais.
Il y avait Ganagay, donc moi j'ai pas regardé du coup.
Ah, ben là, tous nos amis sénégalais du chat, ils vont t'attraper, là. Mais.
Ouais.
Non, après, c'est. Non, moi, je te dirais même déjà, au-delà du joueur, en fait, c'était l'utilisation, en fait, dans laquelle il était foutu. On te l'a foutu en régista, mais. Ça n'a même pas marché contre une N1, les gars. Hein. Faut se poser les bonnes questions. Ah, alors, Elec pose une question qui. Fera hérisser le poil de Simbad et moi. Gvardiol si Diallo part.
Oui, mais même si Kimpembe part, c'est le
Oui,
défenseur,
oui.
c'est le remplaçant de Kimpembe direct.
Oui, complètement. Oui. Alors oui, pour te répondre, Elbeck, je regarde beaucoup Leipzig. Donc oui, il y a certains joueurs de la liste que j'aimerais bien voir jouer au PSG, notamment Gvardiol en fait partie. L'intérêt de prendre de neuf quand tu as Kalimundo, bah, c'est que ce ne sont pas les mêmes profils, tout simplement, Kiroko. Tout simplement. F qui me dit le jeune Thuram, son père serait co pas contre pour signer au PSG, tonton. Bah, honnêtement, Lilian, tu vois plus où en tribune à Nice ou au Parc des Princes? Oups, il a tiré. Non, en vrai, Thuram, j'aimerais bien le voir chez nous. Je peux entendre qu'il y ait des gens qui soient un peu réticents. Je peux entendre que les Niçois ne veuillent pas qu'on le fasse venir, mais moi, j'aimerais beaucoup. Ah, on a Fares aussi qui est nouveau dans le chat. Salut à tout le monde et salut à toi, Fares. En tout cas, je vois qu'on a fait plus d'1 heure de live. On a quand même pas mal répondu à cette problématique. Je sais pas ce que t'en penses.
Ah oui, complètement, complètement. Après, sur Thuram, on n'est pas d'accord, mais on va peut-être pas ouvrir le dossier maintenant.
Ouais, voilà, on a déjà fait des vidéos dessus. Alors, je vois qu'on a fait 140 pouces. On était pas loin des 150. Vous étiez pas là. Vous étiez pas loin de l'objectif. Je compte sur vous vendredi pour vous rattraper. En tout cas, ça fait vachement plaisir de voir qu'on était 345 à suivre ce live. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Z d'avoir été avec nous. Merci aux habitués comme Panamjay dans le chat, aux modérateurs comme Eve et Ultrafan F, et à tous les nouveaux aussi qu'on commence à voir arriver de plus en plus, hein, comme Maxwell notamment. Il y a des noms que je vois qui commencent à être nouveaux dans le chat. Merci à tous d'avoir été avec nous. Alors, ah, attends, avant que je quitte le chat, on a un ami sénégalais là qui, je pense, il n'a pas trop aimé ton commentaire. Il dit, il faut garder Gueye SVP. Il ne joue pas pendant 4 mois, on va se débarrasser plus rapidement dans le 11 du Sénégal. Alors, non, moi, regarde, je vais être honnête avec toi. Gueye, c'est un joueur, regarde, il a un certain âge. Dans le système de jeu dans lequel on va jouer, ce n'est pas le profil de joueur le plus adapté. Moi, regarde, je souhaite à Gueye d'être épanoui autre part et d'avoir du temps de jeu pour pouvoir jouer sa Coupe du Monde, tout simplement. Après, si toi tu veux t'en débarrasser dans le 11 du Sénégal, ça t'arrange qu'on le garde. Mais je pense que tu es le premier Sénégalais qui demande à ce que Gueye ne joue pas la Coupe du Monde, honnêtement. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été présents avec nous dans ce live. On se retrouve dès demain sur Foot Central pour parler d'autres choses que du PSG pour ceux que ça intéresse, mardi à 13h et jeudi à 13h également. Mais pour ceux qui veulent nous retrouver sur Paris Central, on se donne rendez-vous vendredi à 13h, même heure, comme d'habitude. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris.
Ciao tout le monde.